sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le chancelier, monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel. Le 15 novembre 1746, Louis-Antoine de Bougainville, âgé de 17 ans, boit les paroles de son frère aîné, Jean-Pierre, reçu ce jour-là à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et dont la communication « Éclaircissement sur la vie et les voyages de Pythéas de Marseille » est une invitation au voyage. Louis-Antoine de Bougainville n'ira pas sur les traces de Pythéas, qui plus de 3 siècles avant Jésus-Christ semble être arrivé dans sa quête d'Ultima Thule au contact de la banquise quelque part au nord-ouest de l'Islande. Mais 10 ans plus tard, aide-de-camp de Montcalm au Québec, il contracte définitivement le goût de l'aventure, des grands espaces et des terres lointaines. Revenu en France, ne se résolvant pas à ruminer la défaite de la guerre de 7 ans, il met cap au sud et le 3 février 1764, il fonde à ses frais la colonie de Port-Louis aux îles Malouines, avant de s'aventurer vers le détroit de Magellan. Mais son rêve d'une France australe sera hélas ruiné par le pacte de famille, au nom duquel Louis XV lui demande de remettre la colonie aux Espagnols, ce qu'il fait le 1er avril 1767, avant d'entamer sa circumnavigation tropicale qui le rendra célèbre. Dans la fascination que les pôles ont exercée sur les hommes depuis la plus haute antiquité, les fantasmes qu'ils ont véhiculés au nord, une mer libre de glace, au sud, un pays où coule le lait et le miel. Les explorations qu'ils ont suscitées, on constate, à partir des années 1770, une sorte de pause qui durera une 50aine d'années quand, après les guerres de la Révolution et de l'Empire, la Royal Navy devra trouver de nouveaux terrains de jeu et que la France de la monarchie de Juillet aura reconstitué une marine capable de se projeter. Seuls les écrivains avaient maintenu le songe, comme Chateaubriand, fasciné par ce fameux passage du Nord-Ouest qui ne sera franchi qu'en 1906 par Amundsen, après tant d'échecs mortels comme l'expédition de John Franklin en 1845. Chateaubriand l'évoque dans la préface d'Atala, publiée en 1801, 10 ans après son retour d'Amérique. Et cette quête, si elle est restée un rêve, ne l'a pas quittée. Il y revient en 1827 dans son voyage en Amérique où, après force détail sur les explorations britanniques contemporaines, il revient sur ce fameux passage que je m'étais mis en tête de chercher et qui fut la première cause de mon excursion outre-mer. Voilà donc que souffle le vent du grand large, la mémoire des épopées de ces grands capitaines, de ces explorateurs ardents dont beaucoup ne renversent pas, l'émerveillement des aurores boréales, la sidération devant la beauté de ces glaces irisées de toutes leurs nuances de bleu, le mystère de la nuit polaire et de sa vie enfouie, la fascination qu'exercent sur nous ces peuples premiers du Grand Nord, ces mangeurs de crues dont nous avons du mal à percer la cosmogonie. Mais les amoureux de cartes et d'estampes, que nous sommes tous un peu, doivent prendre garde à ne pas se laisser dériver sur ces délicieux et passionnants chemins de traverse, car ce n'est pas sur un détour de nostalgie que je voudrais vous entraîner, mais bien plutôt vous faire partager les enjeux d'un sujet contemporain et davantage encore d'avenir pour notre planète et pour la France, qui doit assumer pleinement son rôle de puissance polaire et le renforcer. Elle présidera en juin 2021 la réunion des parties consultatives sur le traité de l'Antarctique, ce qui devrait être l'occasion pour elle de clarifier sa vision. Je vous propose donc d'abord de découvrir le paysage de ces mondes fascinants, ensuite de tenter d'éclairer les enjeux contemporains et futurs pour appeler de nos voeux une politique de la France plus lisible et plus active. Si vous le voulez bien, commençons donc par la découverte de l'archipel, pour reprendre un beau titre d'Elifort. Chacun le sait, l'Arctique et l'Antarctique ont peu de points communs, si ce n'est le froid, l'alternance semestrielle de jours et de nuits polaires, et le soleil rasant à l'horizon. Leur seul lien naturel est un oiseau étonnant, la sterne arctique, qui pèse une centaine de grammes et qui migre tous les ans d'un pôle à l'autre. Elle parcourt en zigzag 80 000 km, s'alimente au passage dans tous les plans d'eau du monde, dont elle transporte d'ailleurs les pollutions dans les zones polaires. Le pôle Nord, on le sait, est au centre d'un espace marin, entouré par les masses continentales de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Les pourtours de l'Arctique sont peuplés depuis des milliers d'années de peuples traditionnels, dont les descendants sont aujourd'hui 500 000 parmi les 4 millions de personnes vivant au-delà du cercle polaire. Le pôle Sud, lui, est au cœur du continent antarctique, situé à plusieurs milliers de kilomètres des autres terres, entouré du vaste océan austral qui enregistre les records de froid jusqu'à moins 90 degrés, qui est recouvert d'une calotte glaciaire qui peut avoisiner 5000 mètres d'épaisseur. À la différence de l'Arctique, il n'y a pas d'autochtones en Antarctique dont le sol n'a été foulé pour la première fois qu'entre 1820 et 1840 et dont les seuls habitants sont des scientifiques. Le statut géopolitique de ces deux espaces est donc radicalement différent. Au nord, 5 États bordent l'océan glacial arctique, comme vous le voyez, les États-Unis, le Canada, le Danemark au titre du Groenland, la Norvège et la Russie. Pour ces États riverains, dont l'essentiel de la population est localisé bien plus au sud, l'Arctique a toujours été une périphérie et par conséquent une frontière de colonisation avec une priorité pour l'exploitation des ressources économiques. Le droit applicable sur l'essentiel de la zone arctique est donc le droit international de la mer, qui n'est pas reconnu par un des pays riverains, les États-Unis, qui a signé la convention de Montego Bay, mais ne l'a toujours pas ratifiée. Actuellement, la situation juridique de la zone n'est pas toujours stabilisée, car il y a un certain nombre de différends entre les États concernés. Le premier différend porte sur les passages, c'est-à-dire le passage du nord-ouest et le passage du nord-est, que l'on appelle maintenant la route maritime du Nord. Je ne vais pas faire l'exégèse de l'article 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais retenons seulement que la Russie et le Canada considèrent que ces passages se font dans leurs eaux intérieures et qu'à ce titre, ils auraient le droit d'interdire tout passage inoffensif. J'ajoute qu'il y a un article 234 de la Convention, lequel prévoit cette possibilité spécifiquement pour les routes recouvertes par les glaces. Il y a eu d'ailleurs en 1988 et avant 88 un conflit entre les États-Unis et le Canada qui a été conclu en 1988 par ce qu'on appelle, en traduction anglaise, un accord sur le désaccord. C'est-à-dire que les États-Unis informent les Canadiens quand ils veulent passer, mais ne reconnaissent pas qu'ils puissent leur interdire de passer. Voilà, donc cette question de la circulation est un sujet d'aujourd'hui et de demain, puisque ces routes, comme nous le verrons, vont être davantage praticables dans les décennies qui viennent. La seconde difficulté porte sur la délimitation des eaux territoriales et des zones économiques exclusives. Et d'ailleurs, ces difficultés sont plutôt derrière nous. Il reste un litige entre le Canada et les États-Unis pour l'île de Hans, qui est quelque part par là, voilà, ici, à l'ouest du Groenland. Mais pour le reste, pour la zone économique exclusive, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a également des difficultés entre le Canada et les États-Unis dans le secteur de la mer de Beaufort, c'est-à-dire dans ce secteur-là. La troisième difficulté est plus complexe, puisqu'elle répond à la délimitation du plateau continental, puisque dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a la possibilité de revendiquer un plateau continental au-delà des 200 000 marins, auquel cas l'exploitation des ressources serait gérée par une autorité internationale des fonds marins. Et donc, c'est une commission de délimitation du plateau continental qui examine les prétentions et les revendications des États. Et comme vous le voyez sur cette carte très enchevêtrée, si les prétentions de tous les États étaient accordées et si la commission de délimitation faisait le juge de paix, il n'y aurait plus beaucoup de mer libre, totalement libre, puisqu'il n'y aurait que quelques zones qui échapperaient aux plateaux continentaux. Il y a une dispute juridique très compliquée sur la question des dorsales, entre les dorsales océaniques et les dorsales sous-marine, et notamment la dorsale de Lomonosov qui a suscité beaucoup d'articles de doctrine. Dernière considération relative au droit international dans cette zone, qui est le statut singulier de l'archipel du Svalbard, qu'en français on appelle Spitzberg. C'est un archipel formidable, grand comme la Grèce, d'une beauté à couper le souffle, que l'on connaît depuis le Moyen-Âge, qui a été redécouvert par Barents en 1596, qui était hollandais, mais son expédition était partiellement financée par des armateurs français, d'ailleurs. Et donc, ça a été longtemps une zone de conflit liée à la pêche et à la chasse à la baleine. Les baleines ont été éradiquées à partir de la fin ou du milieu du XVIIIe siècle, et donc cette zone n'a plus intéressé grand monde jusqu'à la fin du XIXe siècle, où cet archipel semblait être prometteur en matière de ressources minières. Et donc la Norvège, nouvellement indépendante de la Suède en 1905, a convoqué à Christiania, l'Oslo de l'époque, trois conférences internationales avant la guerre de 14 pour étudier ce que pourrait être le statut du Spitzberg. Ces conférences ont été utiles, mais évidemment, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a mis fin à toute avancée sur ce sujet, puisque à la veille de la Première Guerre mondiale, le Spitzberg est encore res nullius, et c'est une des rares terres qui ne sont pas trop loin de l'Europe, qui est considérée comme res nullius. C'est donc dans le sillage de la conférence de la paix et du traité de Versailles qu'est négocié et conclu en 1920 un traité à Paris, qui est le traité du Spitzberg, dont les dépositaires sont à la fois la France et la Norvège. Et ce traité est extrêmement intéressant à lire parce que l'article 1 donne la souveraineté reconnaît la souveraineté norvégienne sur le Spitzberg, mais les huit autres articles en relativisent la portée, puisque toutes les nations signataires du traité ont vocation à pouvoir exploiter les ressources naturelles du Spitzberg et s'y établir à cette fin. La Norvège a ouvert une mine qu'elle a fermée en 1962 après une catastrophe minière épouvantable. Et les Russes, eux aussi, ont ouvert une mine dans l'entre-deux-guerres, dont l'une, Barentsburg, est toujours en exploitation pour quelques années encore. Donc il y a deux villes fantômes russes au Spitzberg, Pyramiden et Barentsburg. Ce statut du Spitzberg est géré, peut-on dire, à l'estime, puisque chacun essaye de le gérer le mieux possible. Périodiquement, les Russes font valoir qu'ils ont un œil exercé sur la gestion de ce traité. Les Chinois, qui ont adhéré au traité du Spitzberg à la demande de la France en 1925, il y a un diplomate français qui est allé à Pékin pour recommander aux Chinois de ratifier ce traité, ce qu'ils ont fait. Donc les Chinois s'y intéressent bien sûr désormais pour voir quelles failles juridiques pourraient leur permettre de s'y installer davantage. Voilà, mais ce n'est pas un sujet chaud en matière de droit international, mais il faut bien prendre conscience que ce traité recèle des failles, notamment s'agissant de la protection de l'environnement, qui n'était pas un sujet à l'époque où il a été négocié et conclu, puisque son mérite principal, c'est, et j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, de démilitariser le Spitzberg, qui n'est d'ailleurs pas, autre élément important, inclus dans le territoire douanier norvégien. Cet environnement juridique traduit donc la prégnance des considérations de souveraineté nationale plutôt qu'une approche globale de l'espace arctique, même s'il y a un embryon de coopération régionale. Au fil des décennies, un certain nombre d'instruments ont été développés pour gérer les espaces marins. Tout d'abord, les organisations régionales de gestion de la pêche qui établissent des recommandations pour les eaux internationales, mais elles ne couvrent qu'une partie de l'océan Arctique. Une convention dite OSPAR, Oslo-Paris, qui est une convention ambitieuse pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Sud. Et surtout, le Conseil Arctique qui a été créé à Ottawa en 1996. Ce Conseil Arctique est le prolongement d'une démarche environnementale régionale lancée en 1973, ainsi qu'une déclaration dite de Rovaniemi de juin 1991 qui a établi une stratégie de protection de l'environnement arctique. Et ce forum a donné naissance à ce Conseil Arctique en 1996. C'est un organe de coopération intergouvernementale léger. Il ne s'est d'ailleurs doté d'un secrétariat permanent seulement à Tromsø depuis 2012. Mais il ne faudrait pas imaginer qu'on ait là l'embryon d'une organisation internationale régionale, puisque c'est un forum de discussion. Ce forum ne prend pas de décisions juridiquement opposables. Michel Rocard, il y a quelques années, en avait résumé ainsi le fonctionnement. C'est un syndic de propriété complice des copropriétaires pour empêcher toute nouvelle arrivée. Ça avait été assez mal pris, d'ailleurs, par les États riverains de l'époque. Donc il y a les États arctiques qui en sont membres et des observateurs, dont la France. Voilà, donc pour le paysage global du Nord, c'est un espace qui est très structuré par le droit international public dans sa dimension du droit de la mer. Au Sud, cette fois-ci, l'environnement est évidemment tout autre, puisque nous avons un traité international signé en 1959 qui a gelé les revendications territoriales, démilitarisé le continent et surtout promu un des systèmes de gouvernance parmi les plus ambitieux pour promouvoir la recherche scientifique et la protection de l'environnement. Ce qu'on appelle le sixième continent est éloigné de tout. 1000 km de la Terre de Feu, 4500 km du Cap de Bonne-Espérance, 2500 km de Hobart en Tasmanie, c'est la terre des extrêmes. Son exploration est donc tardive. Cook l'a sans doute aperçu en 1773-74, mais on n'en est pas bien sûr. On a ensuite cette formidable épopée de ce Russe, Bellinghausen, qui le premier, semble-t-il, effectue la circumnavigation en 1820-21, mais il y a aussi un baleinier américain, Nathaniel Palmer, un Britannique, Edward Bransfield, qui était aussi dans les parages à l'époque. Il faut quand même avoir un peu de fierté pour notre compatriote Jules Dumont-Durville, parce qu'il semble bien qu'il soit le premier à avoir mis le pied sur le continent lui-même, même si d'autres avaient mis sur les îles de la péninsule leur pied auparavant. Cette Antarctique devient donc un lieu de rivalité internationale au début du XXe siècle pour deux raisons. La première, c'est la chasse à la baleine, qui fait rage dans ces secteurs. Donc et ça a laissé un chef-d'œuvre de la littérature avec Moby Dick. Donc il y a un lien direct entre Nantucket et l'océan austral. Et puis il y a aussi de la fierté ou de la gloriole nationale, notamment pour la Norvège, qui est un jeune État qui veut s'affirmer, et c'est la course au pôle Sud, juste avant la Première Guerre mondiale, entre la Norvège et la Grande-Bretagne, et c'est le Norvégien qui arrive le premier à Amundsen, alors que les Britanniques, qui arrivent quelques semaines plus tard, ne reviendront jamais de cette expédition. Après la Première Guerre mondiale, on assiste à un certain nombre de revendications territoriales. L'Argentine, le Chili, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, la Norvège, tour à tour, revendiquent des îles dans le pourtour de la péninsule, ainsi qu'une portion du camembert qu'est l'Antarctique. Et donc vous voyez ces revendications néo-zélandaises, australienne, française, norvégienne, argentine, Royaume-Uni et Chili. Et donc ces revendications dans l'entre-deux-guerres ne sont pas reconnues par deux pays, les États-Unis et l'Union soviétique ne reconnaissent pas ces revendications, mais ne revendiquent rien pour elles-mêmes. Donc ça, c'est la situation de l'entre-deux-guerres. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un certain nombre de difficultés, parce qu'il y a un double conflit. Il y a un conflit entre le Chili et l'Argentine, et un conflit entre le Chili et l'Argentine qui, après avoir échangé quelques coups de canon, font une sorte de paix en 1948 pour faire front commun contre l'Anglais. Et donc, il y a un conflit entre les Britanniques, d'une part, le Chili et l'Argentine, d'autre part. À l'époque, c'est passé relativement inaperçu. On a d'autres chats à fouetter en Europe avec le blocus de Berlin. Mais il y a quand même des choses qui se passent dans le cône sud à cette époque. Finalement, en 1949, ils décident de laisser les choses en suspens et de ne pas échanger de coups de canon, bien évidemment fortement encouragés par le grand allié américain. Parce que ça fait désordre, évidemment, dans le camp du monde libre. Comme on dit que trois pays qui sont dans le monde libre se disputent pour des arpents de neige dans l'océan austral. Ce qui va susciter la conclusion du traité de l'Antarctique en 1959, ce sont deux éléments. Un élément politique, c'est-à-dire que les États-Unis veulent siffler la fin de partie de ces querelles entre alliés, et d'autre part, la science, puisqu'en 1957-58, il y a l'année géophysique internationale, et donc plusieurs pays installent ou réinstallent des bases sur le continent. On voit d'ailleurs une très grande alacrité des soviétiques à s'y installer. Et puis 1957, c'est Spoutnik. Donc l'URSS dispose d'un grand prestige. Il y a une certaine crainte aux États-Unis d'être distancés par l'Union soviétique, et donc soviétiques et américains s'accordent pour ce traité de l'Antarctique qui est négocié et ratifié en un temps record et en 1959. Le prérequis du traité sont la démilitarisation et le gel des revendications territoriales, ce qui implique que chacune des parties consultatives au traité, c'est-à-dire les signataires initiaux, a le droit de désigner des inspecteurs qui peuvent aller à tout moment dans les installations, stations et moyens de transport situés dans l'Antarctique. De même, les stations et les expéditions décidées par les parties doivent être l'objet de notifications mutuelles. Cette priorité à la recherche scientifique a porté ses fruits pleinement dans les domaines les plus divers, la glaciologie, l'astronomie, l'écologie, l'ornithologie, le géomagnétisme, l'atmosphère et le climat. C'est le lieu des frontières de la vie humaine, comme la base franco-italienne de Concordia, qui est située à 1100 km de la base côtière de Dumont-d'Urville, à 3200 mètres d'altitude, avec une température moyenne de moins 51 degrés qui peut atteindre moins 80, moins 90 pendant l'hiver austral. Et c'est enfin la mémoire longue du climat de la Terre, intuition et œuvre du grand Claude Lorius. En effet, les carottages de glace permettent de déceler la mémoire du climat. Et donc, c'est une intuition qu'a eu Claude Lorius en mettant un glaçon dans son verre de whisky et en voyant les bulles remonter à la surface. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, à partir de 88, la France et les Soviétiques, ensemble, notamment dans la station soviétique de Vostok, ont procédé à des carottages de glace jusqu'à 3270 mètres de profondeur, qui ont permis de reconstituer 800 000 ans de mémoire du climat. L'ambition des scientifiques maintenant est de remonter jusqu'à 1,5 million d'années pour comprendre le rallongement de la séquence des âges glaciaires de 40 000 à 100 000 ans. Il y a évidemment une corrélation très nette qui a été établie entre les températures du passé et les concentrations qu'on y relève en différents gaz à effet de serre. Et cette recherche, voilà, sur cette vue, vous voyez toutes les stations dans la péninsule et surtout sur l'ensemble du continent. Donc il y en a de nombreuses. Beaucoup sont peut-être là plus pour le prestige qu'autre chose et ne fonctionnent pas vraiment à plein. Mais il n'empêche que l'on a une activité très forte sur toutes ces bases, notamment pendant l'été austral, puisque pendant l'hiver austral, on ne peut pas accéder à ces bases et donc les effectifs sont réduits. Donc c'est vraiment un état d'esprit de coopération internationale qui prévaut. J'ai cité la coopération entre la France et l'Union soviétique à l'époque, puis la Russie à Vostok. Le projet international glaciologique antarctique et également les forages profonds qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été réalisés par un consortium européen, EPICA, qui regroupe 10 nations européennes. Au fil des décennies, bien sûr, la dimension environnementale sous-jacente, mais qui n'était pas explicite dans le traité, s'est progressivement renforcée. Il y a eu en 2012 une convention pour la protection des phoques et surtout en 1980 une convention pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, la CCAMLR, qui est très importante, qui est dotée d'un secrétariat permanent, qui se réunit toutes les années à Hobart et qui joue un rôle majeur dans la protection de l'océan austral contre la surpêche. Il y avait une faille dans ce traité, puisqu'en 1959, on avait moins en tête les préoccupations environnementales qu'aujourd'hui, et cette faille a été comblée en 1991, par un protocole dit de Madrid, dont les instigateurs ont été Michel Rocard, à l'époque Premier ministre, et son homologue australien Bob Hawke, qui a considérablement renforcé le traité, puisqu'il a dit que l'Antarctique est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, et que toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche est interdite. Donc ça a été un élément majeur. Voilà pour cette découverte de l'archipel et les singularités de ces deux espaces fascinants. Maintenant, tentons de caractériser brièvement les enjeux de ces mondes polaires. Ils sont de trois ordres, climatiques et environnementaux, économiques et stratégiques. Je pense qu'il n'est guère besoin d'insister sur les enjeux climatiques et environnementaux. Vous avez ici deux cartes très significatives concernant l'Arctique, où après une année terrible en 2007, on a retrouvé en 2017 et 2018 deux années records de faible englacement hivernal. Donc on a un recul de la mer gelée, un recul de la banquise, une baisse de l'épaisseur de la banquise, à tel point que la plupart des scientifiques s'accordent à penser qu'à partir du milieu de ce siècle, il est possible que l'été, pendant quelques semaines, la calotte arctique fonde complètement. Et donc, c'est pourquoi j'avais intitulé ce rapport « Le monde au miroir des pôles », puisque ces pôles constituent en quelque sorte l'ADN de l'histoire du climat de notre planète, et leurs dérèglements sont à la fois causés par l'activité humaine, autant qu'ils vont avoir des effets sur elle. Alors aujourd'hui, la situation est plus dramatique en Arctique qu'en Antarctique, ou pour être plus précis, s'agissant de l'Antarctique, je résume à grands traits, on constate un début de fonte accélérée en Antarctique ouest, près de la péninsule antarctique, donc dans le prolongement de la Terre de Feu. Notamment, il y a un glacier énorme qui s'appelle le glacier de Tweist, que les scientifiques appellent le glacier le plus dangereux du monde, parce qu'il plonge beaucoup dans la mer, et comme c'est le réchauffement de la mer qui le mine à sa base, bien évidemment, les volumes de glace potentiellement dégelables sont énormes. En revanche, en Antarctique de l'Est, ce n'est pas encore le cas. On a même ces dernières années assisté à des glaciations assez importantes, ce qui fait que notre astrolabe national qui fait le lien entre Hobart et la Terre Adélie, port aux Français, a été obligé de s'arrêter à 80 km de la péninsule et de faire les transbordements, ce qui n'a pas été simple parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Mais l'idée générale qu'il faut retenir, c'est évidemment que les pôles fondent à une allure que l'on n'avait jamais connue jusqu'alors. Pour une raison principale, c'est ce que les scientifiques appellent l'effet d'albédo, qui synthétise la puissance de réfléchissement. Quand il y a de la neige, les rayons solaires sont réfléchis à 80 ou 90%. En revanche, la mer, elle, absorbe 70% de l'énergie qu'envoie le soleil. Donc plus, et après, c'est un espace, c'est un effet cumulatif, hein, c'est une spirale. Au fur et à mesure que la banquise recule, la mer est plus chaude et fait encore davantage fondre la banquise. Et il y a un deuxième effet qui est la question de la fonte du pergélisol. On appelait ça dans notre enfance, dans les livres de géographie, le permafrost, notamment, qui est un mot russe. Et donc la fonte du pergélisol, si elle était avérée, sur ce sujet les scientifiques sont moins certains que sur la banquise, on aurait la libération de méthane qui contribuerait encore davantage, bien évidemment, à l'effet de serre, avec des effets plusieurs fois plus dangereux que le CO2. Donc je pense qu'il n'est pas besoin d'insister sur le sujet des enjeux climatiques. Deuxième catégorie d'enjeux, les enjeux économiques. Alors, serrions-les rapidement, d'autant plus que ces enjeux économiques, et on le verra aussi pour les enjeux stratégiques, font l'objet de déclarations définitives dans la presse ou dans un certain nombre de rapports qui me paraissent un peu excessives. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de manière assez sereine. Commençons d'abord par la pêche et la chasse. On dit parfois que ces régions polaires seraient un Eldorado. Bon. Je pense qu'il faut oublier cela. Les régions polaires ne seront pas un Eldorado pour la pêche. D'abord parce que en Antarctique, elle est sévèrement contrôlée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la CCA-MLR, et avec des mesures de contrôle assez effectives, étonnamment effectives d'ailleurs, puisque la pêche pirate, la pêche illicite a beaucoup diminué ces dernières années, telles que le montrent les observations satellitaires. Et en Arctique, il y a eu un moratoire décidé par les pays arctiques de 35 ans sur la zone centrale arctique. Donc oui, il y a de la pêche, mais il ne faut pas considérer que, notamment, le réchauffement climatique va permettre de pêcher beaucoup plus dans les zones polaires. J'ajoute que, pour ce qui concerne notamment l'Antarctique, il y a le processus d'air marine protégée, qui est promu depuis quelques années, d'ailleurs sur lequel la France est partie prenante avec l'Australie pour avoir une aire commune, et que ces aires marines protégées sévérisent, si je puis m'autoriser ce néologisme, encore davantage les règles posées déjà par les règles de gestion de l'océan austral. Donc, voilà, sur la question de la pêche, je pense qu'il faut raison garder. Deuxième sujet, les ressources naturelles, qui là aussi suscite beaucoup de fantasmes. Voilà, donc ça c'est le retrait de la banquise boréale qui montre bien que ça fond de plus en plus vite ces dernières années. Voilà. Alors, cette diapo, oubliez le titre, que je ne suis pas arrivé à gommer, parce que ce n'est pas du tout un Moyen-Orient en devenir. Voilà. Donc, mais regardez la carte, mais pas le titre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des exploitations d'hydrocarbures déjà, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date du début des années 60. Donc, c'est essentiellement, je commence par les moins importantes, c'est ici Prudhoe Bay, donc c'est à la frontière entre l'Alaska, la mer de Beaufort, entre l'Alaska et le Canada, et ce ne sont pas des gisements énormes, mais qui existent. Mais c'est surtout là que ça se passe. Voilà. Ça se passe là depuis un certain temps. Donc ça, c'est la mer de Barents. Il y a une partie exploitée par les Norvégiens, une partie par les Russes. Mais c'est surtout là que ça se passe. C'est Yamal. Voilà. Yamal, projet, enfin, qui n'est pas un projet, qui est une réalité, où il y a une ville champignon qui a émergé en quelques années. Total est d'ailleurs partie prenante à hauteur de 30% du projet avec les Russes, qui sont majoritaires, et les Chinois. Et on ne fait pas du pétrole, hein, c'est du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Donc on n'est pas sur du pétrole et on n'est pas sur du gaz transporté par gazoduc. Et donc ce Yamal est très important, c'est un des gisements les plus importants au monde actuellement. Et il y a d'ailleurs une deuxième exploitation qui va se faire dans le projet Arctique 2. Donc ça, oui, ça existe, mais on n'est pas, vous le voyez, très au nord. On est certes au-delà du cercle polaire arctique, mais on est à proximité de la Russie. Voilà pour les hydrocarbures. Il faut donc se méfier de ce qu'on lit dans certains articles, parce qu'il y a eu une étude de l'US Geological Survey en 2008, où on cite des chiffres faramineux, 30% des réserves mondiales, etc., etc. Donc c'est toujours la même étude qui est prise, qui est compilée, qui est répliquée, et jamais personne n'a réouvert le capot du moteur de l'étude pour bien montrer que c'était... cette étude est un peu amphigourique, donc je pense qu'il faut la relativiser. Dernière chose sur les hydrocarbures, on s'oriente surtout vers le gaz et principalement le GNL, et pas vers du pétrole. Et d'ailleurs, Christophe de Margerie, en 2012, a dit que Total renonçait définitivement à exploiter du pétrole, où que ce soit, en Arctique. Voilà pour ce qui concerne les hydrocarbures. Alors, il y a évidemment de l'uranium et des métaux rares dans l'Arctique canadien, ça commence un peu, dans l'Arctique américain, mais ce n'est pas tant exploité que ça. D'ailleurs, notre compagnie ex-Areva a renoncé à un projet qu'elle avait ici. Il y a une question au Groenland. Ici, d'ailleurs, c'est en deçà du cercle arctique, puisque une société australo-britannique dont 10% de capitaux chinois qui ont vocation à monter semblerait avoir eu une licence du gouvernement groenlandais en 2013. Et donc, il y a des interrogations sur l'exploitation d'uranium au Groenland. Mais je pense que l'idée générale qu'il faut retenir, à rebours de ce que l'on lit parfois, que ce n'est pas un Eldorado. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces zones polaires, toute l'histoire a toujours été rythmée par une alternance d'emballements pour des richesses inexploitées, suivies de périodes d'abandon. Voilà. Donc ça a été les fourrures, les défenses de narval, l'huile de baleine, les fourrures de phoque, l'or du Klondike, le charbon du Svalbard. Donc on est habitué à ces engouements qui parfois ne vont pas loin. J'ajoute que 95% des ressources de l'océan Arctique, comme on l'a vu, sont comprises dans des zones économiques exclusives dont je parlais tout à l'heure, dont les droits d'exploitation reviennent aux États riverains. Voilà. Troisième sujet sur le plan économique, les routes maritimes dont j'ai déjà parlé. Donc la route maritime du Nord, ex-passage du Nord-Est, Norvège, Russie, détroit de Bering et Pacifique, et la route du Nord, le passage du Nord-Ouest, cher à Chateaubriand, dont j'ai parlé à mon introduction, qui passe au nord du Canada et des États-Unis avant d'arriver à l'île Diomède, qui fait la frontière entre la Russie et les États-Unis dans le détroit de Bering. Donc cette frontière a été instituée en 1867 quand les Russes ont vendu l'Alaska aux Américains. Là aussi, ces routes ont été découvertes tardivement. La route maritime du Nord a été découverte en 1876, je crois, mais plus jamais pratiquée par un navigateur suédois, il semble me souvenir. Et celle du Nord-Ouest a été découverte en 1906 par Amundsen, et n'a guère été pratiqué ensuite, parce que surtout le passage du Nord-Ouest, je parle devant un marin, est difficilement navigable, le passage du Nord-Est, la route maritime du Nord, l'étant davantage. Alors bien sûr, avec le réchauffement climatique et la possibilité d'emprunter ces passages plus longtemps et plus souvent qu'à l'accoutumée, on peut se dire cela va révolutionner le fret maritime. Et c'est vrai qu'en moyenne, cela diminue le temps de trajet de 20 à 40% selon d'où l'on vient et d'où l'on part. Mais ce qui fait la loi des reins du trafic maritime, c'est la régularité. Et on n'est pas sûr de la régularité parce qu'on peut toujours avoir des incidents de navigation. Deuxièmement, les Russes semblent vouloir imposer, en ayant créé une nouvelle autorité gestionnaire de la route maritime du Nord, d'imposer des droits de passage assez élevés ou d'être accompagné par un pilote spécialiste de la glace, enfin faire comme les Égyptiens, le canal de Suez en gros. Et quand on regarde les choses, le trafic, même en grande augmentation, représente entre un jour et demi et deux jours de transit au canal de Suez. Voilà. Bon. Alors, même si on monte à 4 jours ou à 5 jours, ce sera certes plus important, mais je ne pense pas qu'on puisse parler non plus d'une révolution dans le fret maritime, alors qu'on le lit souvent. Et enfin, dernier élément de l'activité économique, c'est le tourisme, qui s'est beaucoup développé. Mais là non plus, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un tourisme de masse dans les pôles. Alors oui,
il y a un tourisme de masse qui est en train de se développer en Islande, puisque l'Islande, en 20 ans, a multiplié par 10 son nombre de touristes. Il y avait 230 000 touristes en Irlande en 1998, il y en a 2,3 millions en 2018. Donc ça, c'est avéré pour l'Islande. D'ailleurs, le gouvernement islandais se demande comment gérer ce qu'on appelle le surtourisme. En revanche, pour les pôles, il ne s'agit pas du tout des mêmes chiffres, puisque nous avons 280 000 touristes par an en Arctique, et nous en avons 56 000 en Antarctique. À supposer que ce chiffre augmente, et il augmentera, car il y a des bateaux de croisière en construction, ça on le sait, nous ne sommes pas dans des proportions ingérables. Et j'ajoute, s'agissant notamment de l'Antarctique, que les voyagistes se sont réunis de longue date dans une association qui travaille avec le système des Nations Unies de l'Antarctique pour avoir évidemment des bateaux complètement neutres et que les comportements des croisiéristes et ceux qui débarquent au sol sont extrêmement contrôlés. Donc il y a en matière de gouvernance environnementale dans le tourisme antarctique quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faudrait sans doute dupliquer pour l'Arctique. Et je sais que cette question est en discussion devant le Conseil arctique. Voilà pour ce qui concerne les enjeux économiques. Maintenant, les enjeux stratégiques, ils doivent être d'une part replacés dans le temps long et d'autre part, notamment s'agissant de l'Antarctique, il s'agit d'enjeux stratégico-juridiques plus que stratégiques seulement. Alors, peut-être... à ce stade, évidemment, distinguer une fois de plus l'Antarctique de l'Arctique. Il y a meilleur connaisseur que moi dans votre assistance du fonctionnement du traité de l'Antarctique, mais on entend parfois certaines craintes en disant est-ce que ce traité de l'Antarctique est vraiment solide ? Puisque, en réalité, les puissances signataires s'engagent à le respecter, mais il n'y en a qu'une sur quatre. 56 pays sur près de 200 aux Nations Unies l'ont signé et ratifié. Et même rien n'interdit à un pays signataire de se retirer et, entre guillemets, de faire n'importe quoi en Antarctique. Donc c'est pourquoi, dans une certaine littérature, on entend un certain pessimisme sur la pérennité de l'efficacité du système antarctique. Bien sûr que ce risque existe, comme je viens de le dire. Mais je pense que globalement, il y a tellement de garde-fous et de cliquets pour la révision du traité que, me semble-t-il, il n'y a pas grand risque à ce que le système de l'Antarctique, du traité de l'Antarctique, explose, entre guillemets, à vue humaine. Il est vrai qu'il va y avoir une échéance très importante à l'horizon 2048, qui est la révision éventuelle du protocole, du moratoire minier institué par le protocole de Madrid. Mais là encore, pour modifier le protocole de Madrid, il y a suffisamment de garde-fous pour qu'on ne soit pas trop inquiet. Au plan stratégique, l'Arctique n'a jamais été un espace autonome, mais le résultat de rivalités de puissances extérieures. On l'a vu depuis le Moyen-Âge, hein, les Britanniques, les Danois, les Suédo-Norvégiens, les Russes, bien évidemment. Donc ça a toujours été un endroit qui est une projection du théâtre stratégique nord-atlantique, en réalité. Je ne vais pas revenir sur le peu d'opérations qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale dans le secteur, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la station météorologique allemande au nord du Spitzberg, ni sur le champ de la guerre froide qu'a magnifiquement décrit le professeur Soutou dans un de ses ouvrages. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, l'espace arctique n'existe pas en soi, mais il existe par ce que les pays riverains et les grandes puissances en font. Bon. La première chose qu'il me semble falloir retenir, et je l'ai déjà dit, donc je vais être rapide, c'est que les pays riverains de l'Arctique ne souhaitent pas que les autres pays se mêlent de leurs affaires. Voilà. Donc voilà. Et on ne peut pas le reprocher, d'ailleurs. C'est pourquoi toutes les tentatives de dire il faut un statut de l'Arctique comme celui de l'Antarctique, c'est, me semble-t-il, une vue de l'esprit. Donc voilà, on a des États riverains qui sont souverains, qui ont des zones économiques exclusives, etc., etc. Donc il faut respecter ça et utiliser le forum qu'est le Conseil pour l'Arctique à sa juste mesure, puisqu'il y a des observateurs dont nous sommes, et les observateurs ont le droit de dire des choses. Ils ne seront pas forcément écoutés, mais on est dans de la diplomatie d'influence. Donc, je pense de ce point de vue que la tentative de Michel Rocard, que j'ai citée tout à l'heure, était sympathique, mais elle n'était pas vraiment réaliste, premièrement. Deuxièmement, quelles sont les positions des différents pays. Alors, je vais être aussi rapide parce que l'heure tourne. Comment résumer les choses ? Bon, d'abord, la Russie, on va faire le tour, on va commencer par la Russie. La Russie a toujours été un grand pays polaire. Et la Sibérie, et l'Arctique, et l'épopée des explorateurs, l'épopée des brise-glaces, a toujours fait partie de l'imaginaire russe et soviétique. Donc ne faisons pas semblant de découvrir que la Russie se réintéresse, ce à quoi elle s'est toujours intéressée. La Russie, c'est la moitié du pourtour arctique, c'est la moitié de la population qui vit au-delà du cercle polaire. Donc oui, la Russie, qui a été un peu empêchée pendant les 20 ans de perestroïka à ce qui a succédé, sont de retour dans un de leurs terrains de jeu dans lesquels elles étaient toujours. Donc il faut regarder ça de très près, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus, s'en émouvoir, me semble-t-il, outre mesure. Ils ont effectivement des perspectives de développement très fortes avec le GNL, comme je le dis. Ces derniers temps, après la guerre de Crimée, ils ont, pour parler comme Clausewitz, ils ont fait un peu de gesticulation militaire avec des manœuvres. Les Américains, d'ailleurs, font un peu de gesticulation militaire aussi avec une de leurs flottes qui croise maintenant un peu au large du Groenland. Voilà. Bon. Donc je pense que, oui, la Russie est un pays polaire, mais il ne faut pas faire semblant de le découvrir. Il y a ensuite le Canada. Je passe vite. Il y a des livres blancs, des déclarations assez ambitieuses, mais en réalité, le Canada, sauf sur cette question du droit de passage dont je parlais tout à l'heure et de la qualification en eau intérieure, est beaucoup moins impliqué qu'on ne le pense quand on regarde la réalité de ses efforts. Et on pourrait dire un peu la même chose des États-Unis. Alors, je précise. Les États-Unis sont toujours intéressés à l'Arctique. Dans la période contemporaine, ils ont eu des explorateurs, Pôle Nord notamment, et il ne faut pas oublier qu'ils ont occupé l'Islande à la demande des Anglais 6 mois avant Pearl Harbor. Hein, parce que les Anglais arrivent en Islande à titre préventif en juin 40. Et comme ils ne peuvent pas tenir tout, ils demandent aux Américains de leur succéder en Islande, ce qu'ils font en juin 41, 6 mois avant Pearl Harbor. À la même époque, ils commencent déjà à s'installer au Groenland, dans ce qui sera la base de Thule, qui est au nord-ouest du Groenland, puisque je vous rappelle qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Islande est danoise. Elle n'est pas indépendante, tout comme le Groenland. Donc les Américains se sont toujours, d'ailleurs, il y avait le Strategic Air Command qui avait des détachements au Groenland avec des bombardiers porteurs de bombes atomiques, dont une, d'ailleurs, semble-t-il, a été perdue et n'a toujours pas été retrouvée. Et donc les États-Unis, on peut croire, en entendant les récente déclaration de M. Pompeo au Conseil de l'Arctique en juin dernier, les déclarations du président Trump, disant « je vais racheter le Groenland ». Alors, c'est, l'histoire du rachat du Groenland est plus qu'anecdotique, parce que les Américains ont l'habitude de racheter des colonies aux Danois. Parce qu'en 1917, ils ont racheté les îles Vierges danoises, qui sont maintenant américaines, Sainte-Croix et autres, qui étaient des colonies danoises. Et en pleine guerre mondiale, le Danemark a vendu ses Antilles aux États-Unis. Donc ils ont l'habitude, les Américains, la diplomatie américaine, d'acheter des colonies aux Danois. Donc c'est pour ça que la proposition de Donald Trump n'est pas aussi étonnante que cela puisse paraître, même si elle peut paraître choquante. D'ailleurs, en 1946, je crois, ils avaient proposé de racheter le Groenland pour 100 millions de dollars de l'époque. Voilà, et les Américains s'intéressent maintenant plus au Groenland, ils ont nommé un consul récemment, voilà, mais là encore, c'est un peu de gesticulation. Si on fait le tour, nous arrivons maintenant à la Norvège, dont l'Arctique est la projection de puissance principale, et donc qui effectivement tient à sa souveraineté, regarde de près l'interprétation du traité du Svalbard, et on ne saurait le reprocher quoi que ce soit de ce point de vue. Et enfin, le Danemark est là au titre du Groenland, puisque le Groenland est autonome, mais est encore danois, et le Danemark est en charge de la sécurité. Et évidemment, le Danemark est très vigilant sur les convoitises extérieures. Et quand on parle convoitise extérieure, on pense évidemment à la Chine. On pense évidemment à la Chine, qui est le grand sujet, et cette fois pas seulement au nord, mais au sud. Bon. Pour résumer, la Chine déploie une politique polaire tous azimuts depuis maintenant une vingtaine d'années. Au nord comme au sud, donc elle y met des moyens. Elle construit beaucoup de bases en Antarctique, elle en a construit une aussi au Svalbard et elle a un accord en Islande. Donc, je pense que ce qui est important pour la communauté internationale, c'est d'acculturer les Chinois à la vision que nous avons de la gestion des zones polaires. Voilà. Donc, il faut être extrêmement vigilant et il faut les acculturer à cette vision du monde polaire. Enfin, troisième moment, la France dans tout ça. Vous pouvez trouver étrange que je n'ai pas commencé avec le sujet principal de ma communication. Mais il me semblait indispensable de brosser d'abord ce panorama pour voir ce que notre pays a comme politique polaire et comment il peut l'améliorer. J'ai parlé de puissance polaire. C'est un concept qui est peu usité et que je vais peut-être expliciter en quelques mots. Quand on parle puissance polaire, il y a sans doute trois éléments. Le premier, c'est le capital immatériel légué par les explorateurs qui, depuis le XVIe siècle, parcourent les mers. Le deuxième élément, c'est l'emprise territoriale. Et le troisième événement, c'est l'effectivité de l'engagement polaire, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. C'est d'ailleurs ce critère qui est retenu pour être coopté comme partie consultative dans le cadre du traité sur l'Antarctique. Ces critères ne sont pas d'ailleurs cumulatifs, puisqu'on parlait de la Chine. Et la Chine, on voit qu'elle n'a pas eu d'explorateurs. Zheng He n'est jamais allé dans les zones polaires. Elle n'est pas possessionnée ni présente territorialement. Mais depuis 20 ans, elle a développé une politique très active et c'est pourquoi on peut parler aussi aujourd'hui d'une Chine qui est puissance polaire. La France, elle, réunit les trois critères. Elle a tout d'abord des explorateurs formidables au fil des siècles. Il faudrait une séance pour en parler. Jacques Cartier, Champlain, Blosseville, Kerguelen, Dumont-Durville, Charcot, Jean Mallory plus récemment, et d'autres. Voilà. Donc je ne vais pas détailler ce que leur tourne, mais en tout cas, nous avons une part française, de l'imaginaire français dans les pôles. Alors je sais bien qu'on a toujours été partagé entre le précaré et le grand large, entre la pierre et le vent, entre les conceptions de Duplex et de la Bourdonnais. Voilà, est-ce que c'est la terre, est-ce que c'est la mer? On est écartelé entre les deux en permanence et on ne fait pas forcément bien ni l'un ni l'autre. La différence des puissances seulement terriennes ou des puissances seulement à la socratique, mais nous avons un passé polaire et maritime dont il faut être fier. Nous sommes présents territorialement dans le subarctique avec Saint-Pierre et Miquelon, qu'on oublie souvent, et puis dans le subantarctique avec les terres australes et antarctiques françaises, Crozet, Amsterdam, Saint-Paul et Kerguelen, collectivités territoriales de notre République. Et nous sommes possessionnés, comme on dit, en terre Adélie, sur le continent antarctique. L'effectivité, maintenant, le troisième élément, c'est l'excellence de la recherche française. Les expéditions polaires françaises ont commencé vraiment, je ne parle pas de Charcot, mais dans la période contemporaine, grâce à Paul-Émile Victor et des gouvernements avisés à l'époque, alors qu'on était en pleine reconstruction, des gouvernements ont eu le courage de financer la recherche polaire. C'est Paul-Émile Victor en 1947 avec les expositions polaires françaises, la base de Port-Martin, la base Charcot et Dumont-Durville. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en Antarctique et aussi en Arctique, à Nualesund, au Spitzberg, et au fond de du fjord du Roi, du Kongsfjord, avec notre station Corbel, et que nous sommes très bien placés par le nombre de citations dans les publications internationales, puisque nous sommes premiers pour les études subantarctiques, second pour les études antarctiques, et cinquième, je crois, pour les études arctiques. Donc nous avons une recherche française. J'ai cité Claude Lorius tout à l'heure. Il faut citer Jérôme Chaplaz, Jean Jouzel, Jean-Robert Petit, Jean-Marc Bardella, Dominique Reynaud et d'autres. Et enfin, nous sommes présents économiquement, notamment dans les terres australes, avec notre zone économique exclusive, puisque la France effectue, enfin les bateaux français qui viennent de La Réunion, capture 35% des prises dans l'océan austral. Et j'ai parlé également de la présence de Total à Yamal. J'aurais pu parler de la présence de Total aussi au large de l'Argentine en Terre de Feu. Et puis, dans le domaine du tourisme, la compagnie Ponant. Sur le plan diplomatique, nous entretenons de bonnes relations avec tous les partenaires. Et notamment, et c'est nouveau depuis une dizaine d'années, avec l'Australie, dans ce qu'on appelle la stratégie Indo-Pacifique. Donc je pense que c'est une bonne chose. Enfin, sur le plan militaire, nous avons d'excellentes relations avec nos alliés. Nous participons à des manœuvres interalliées dans le Grand Nord pour aguerrir nos trois armes. Et il faut saluer la performance du bâtiment de la Marine nationale, le Rhône, qui a emprunter la route maritime du Nord en totale autonomie il y a 2 ans. Et ça a été une performance assez incroyable dont on n'a pas assez parlé et qu'il convient de saluer. Et par ailleurs, la Marine nationale est présente aussi au Sud, puisqu'elle opère l'Astrolabe, qui est l'Astrolabe 2, qui fait le lien entre Hobart et la Terre Adélie, et elle participe aux missions de contrôle en mer le reste du temps, c'est-à-dire pendant l'hiver austral. Longtemps, la France a eu une politique polaire sans le savoir, du moins sans réellement l'affirmer. On a commencé à en avoir une incarnation avec la nomination d'un ambassadeur pour les pôles en 2009 dans la personne de Michel Rocard. Auparavant, notre politique n'était connue que des spécialistes et cette politique, à partir de 2009, a eu une incarnation plus visible. En 2016, une feuille de route pour l'Arctique, tout à fait remarquable. Et depuis, on a eu un certain nombre d'initiatives. Une feuille de route pour la recherche a été demandée à M. Chaplaz, qui est le patron de l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Et puis un document a été publié l'automne dernier par le ministère de la Défense sur l'Arctique. Et donc, il me semble, et c'est un peu la conclusion de ce propos, c'est qu'à la veille de 2021, puisque la France va être le pays hôte de la conférence annuelle des signataires du traité de l'Arctique, qui est une conférence extrêmement importante, la France s'honorerait de préparer et publier un livre blanc qui clarifie complètement sa politique polaire au nord comme au sud. Ce livre blanc devra rappeler ce que sont nos grands axes. Au nord, bien évidemment, reconnaître la souveraineté des États arctiques et apporter notre contribution à la réflexion et à l'action commune pour les décennies qui viennent. Au sud, réaffirmer bien évidemment notre soutien au système du traité de l'Antarctique complété par le protocole de Madrid et à sa pérennité. Et enfin, troisièmement, mettre l'accent sur la nécessité de renforcer notre recherche polaire. Nous avons vu que nous sommes actuellement une nation de rang honorable dans la recherche polaire. C'est d'ailleurs une recherche qui n'est pas très coûteuse. J'ai essayé de faire le décompte, c'est un peu plus de 60 millions d'euros. Donc ce ne sont pas des sommes extravagantes. Je pense qu'on gagnerait à les augmenter pour ancrer encore davantage notre pays, car j'ai la conviction que ces questions polaires font partie intégrante d'une politique globale de la France. Je vous remercie.